Chapitre 57. Alors que le chariot traversait le camp, Richard regardait dehors à travers les barreaux du guichet de sa cage de fer.
« Alors, Ruben ?»
lui lança Léo Leroc.
« Que dis-tu du spectacle ?»
Un œil collé au guichet, Léo souriait comme un homme qui arrive sur le lieu de ses vacances. Richard jeta un rapide coup d'œil à son compagnon de captivité.
« Sacrément impressionnant !»
lui concéda-t-il.
« Tu crois qu'il y a des gars capables de nous battre dans le coin ?»«
Je n'en sais rien, mais on ne va pas tarder à être fixé. »«
Ruben, je brûle d'envie de fracasser le crâne à deux ou trois champions de l'Empereur !»
Léo coula un regard en biais à Richard.
« Si on bat l'équipe de Jagang, on nous laissera rentrer chez nous ?»«
Sans blague. »«
Bien sûr que non, je plaisantais. »
« Plutôt nul, ton sens de l'humour. »«
Désolé. Cela dit, il paraît que les joueurs de l'Empereur sont les meilleurs, et je n'ai aucune envie de tâter de nouveau du fouet. »«
Moi de même, mon ami. Une fois m'a suffi. »
Richard et Léo Leroc partageaient la cage depuis la capture du sourcier à Tamarang. Fait prisonnier avant Richard, Leroc, meunier de profession, était originaire du sud des contrées du milieu. Alors que le convoi approchait de son paisible village, des éclaireurs l'avaient repéré, estimant qu'un pareil colosse ferait des malheurs au Djala. Richard ignorait le véritable nom de son compagnon. Son surnom, le Roc, faisait à l'évidence référence à ses muscles saillants plus durs que la pierre. Pour son nouvel ami, Richard était resté Ruben Ribnik. Bien que le Roc fût sur la même galère que lui, il semblait dangereux de lui révéler son identité. Le jour de sa capture, le Roc avait brisé les bras de trois soldats avant de succomber sous le nombre. Richard s'était contenté de dire qu'il avait renoncé à combattre parce que des archers et des arbalétriers le visaient. Embarrassé par le manque de courage de son compagnon d'infortune, l'ancien meunier s'était abstenu de tout commentaire. Malgré son apparence physique et le sourire béat qu'il aimait afficher, Léo le Roc était un homme intelligent, capable de subtiles analyses. Heureux que Richard ne l'ait jamais pris pour un crétin, ni traité comme tel, il s'était très vite rapproché de lui. S'étant ravisé au sujet de la couardise du sourcier, il avait demandé à être son ailier droit dans l'équipe de Djala. Le poste d'ailier, capital mais ingrat, était un des plus exposés du jeu. Le Roc l'adorait parce qu'il lui donnait l'occasion de fracasser le crâne de soldats de l'ordre et d'être applaudi pour ça au lieu de se faire couper la tête. Malgré sa taille et sa masse musculaire, le Roc courait très vite, une combinaison de qualités qui le destinait à être l'ailier droit d'un marqueur tel que Richard. Le Roc adorait défendre les flancs de son attaquant de pointe, tout en le regardant se déchaîner sur le terrain. Les autres équipes n'étaient pas habituées à une telle fureur et ça les décontenançait. Ruben et le Roc étaient vite devenus un duo de légende. Et même s'ils n'en avaient jamais parlé, ils savaient tous deux que le Djala était avant tout un bon prétexte pour casser du soudard à tour de bras. Le camp était immense. Quand il eut reconnu les plaines d'Azrit et le haut plateau où se dressait le palais du peuple, Richard se détourna du guichet, dégoûté, et alla s'asseoir contre la paroi du fond où il ne verrait plus ce triste spectacle. Encore heureux que l'armée d'Aran ait levé le camp. Si elle avait tenté de résister, la simple supériorité numérique de l'adversaire aurait suffi à la mettre en déroute. En ce moment même, les soldats ainsi épargnés devaient être en train de semer la terreur dans l'ancien monde. S'ils s'en tenaient au plan, opéré par groupes relativement petits afin de frapper fort et vite partout dans l'ancien monde, l'angoisse devait saisir à la gorge tous les civils, et particulièrement ceux qui clamaient haut et fort leur fidélité à l'ordre. À présent, ces fanatiques mesuraient les conséquences de leur engagement et certains devaient déjà avoir perdu une bonne part de leur enthousiasme. Partout dans le camp, les soudards semblaient se réjouir de l'arrivée des chariots. Rien de plus logique puisqu'ils étaient chargés de vivres. Les jours à venir, les soldats avaient intérêt à s'en mettre plein la panse parce qu'ils ne se goinfreraient plus de sitôt. Avec la stratégie mise en place par Richard, le prochain convoi n'était pas près d'arriver. Sans rien manger, au milieu des terribles plaines d'Azrit, l'armée de Jagang n'allait pas vivre un hiver très agréable. Presque tous les hommes tentaient de jeter un coup d'œil dans la cage pour apercevoir le marqueur de légende. Après une série impressionnante de victoires, La réputation de Richard et de ses équipiers les précédait partout où ils allaient. Grand amateur de Djala, les soldats attendaient avec impatience de voir à l'œuvre l'équipe de Ruben, un simple nom de scène car le vrai propriétaire était le général au visage de reptile. À part les prisonnières qu'ils soumettaient à toute leur fantaisie, les soudards n'avaient que les compétitions de Djala pour se distraire. Confiné dans sa cage, Richard tentait de ne pas trop penser au sort des femmes innocentes livrées aux chiens puants de Jagang. Prisonnier comme elles, il ne pouvait pas les aider de toute façon. Un jour, après une rencontre très violente remportée haut la main, Léo Le Roc s'était ouvertement étonné qu'un gaillard comme Ruben se soit laissé capturer sans résistance. De guerre lasse, Richard lui avait raconté toute l'histoire. Au début, l'ancien meunier ne l'avait pas cru. Agacé, Richard lui avait conseillé de demander au général à la gueule de Crotal. Le Roc avait osé le faire. Une fois confirmé le récit du sourcier, ce sincère défenseur de la liberté avait insisté pour être nommé ailier droit de Ruben. Après l'avoir longtemps exprimé à travers l'épée de vérité, Richard extériorisait maintenant sa rage sur un terrain de Djala. Même s'il le respectait, l'admirait et lui faisait confiance, ses propres équipiers avaient peur de lui. À part le Roc, car il partageait la philosophie de son marqueur. Pour eux, le Djala n'était pas un jeu, mais un combat à mort. Certains champions imbus d'eux-mêmes, des soldats promus vedettes qui perdaient tout sens des réalités, avaient payé leur arrogance de leur vie. Quand on affrontait les gars de Ruben, il n'était pas rare de finir à l'infirmerie, voire 6 pieds sous terre. De son côté, Richard déplorait un seul décès. Un arrière frappé à la tête par le broc, alors qu'il regardait ailleurs. La nuque brisée net, il n'avait pas eu le temps de souffrir. Richard se souvint du temps où il se promenait avec Alan dans les rues d'Aïdindril. Très intéressé par les parties de Djala que disputaient des gamins, il avait fait remplacer les brocs réglementaires des armes mortelles par un modèle plus léger, beaucoup mieux adapté à des compétitions amicales. Aujourd'hui, la ville était déserte et qui pouvait dire où avaient fui les gamins qu'il aimait tant.
« Cet endroit n'est pas bon pour nous, Ruben, » dit le Roc, toujours debout devant le guichet. « Pour des esclaves comme nous, c'est la dernière station avant le royaume des morts.
Si tu te considères comme un esclave, alors tu en es un. » Le Roc se tourna vers son ami.
« Si ça marche vraiment comme ça, je n'en suis pas un, Ruben. »
« J'en suis heureux pour toi, frère. »
Le Roc colla de nouveau ses yeux au guichet pour contempler le spectacle. De sa vie, il n'avait sûrement jamais vu une chose pareille. Des années plus tôt, alors qu'il sortait tout juste de sa chère forêt, Richard aussi s'était émerveillé de tout. Aujourd'hui, il se montrait beaucoup plus méfiant.
« Tu devrais venir voir ça, Ruben. »«
Quoi donc ? Tu sais, j'ai bien peur d'en avoir déjà trop vu. »
« Eh bien, ce sont des soldats, mais ils ne ressemblent pas aux autres. Pour commencer, ils portent tous le même uniforme. Ensuite, leurs armes sont de meilleure facture. Et enfin, tous les autres barbares s'écartent sur leur passage. »
Le Roc jeta un coup d'œil à Richard par-dessus son épaule.
« Je parie que c'est l'escorte privée de l'empereur. Jagang doit avoir envie d'assister à l'arrivée des joueurs qui risquent de battre son équipe. Tiens !» « Je crois que c'est lui au milieu des soldats d'élite. »
Richard se leva et se campa près de son ami.
« Tu dois avoir raison, » dit-il simplement. « C'est l'empereur. »
Jagang regardait ailleurs, car il surveillait l'arrivée d'autres équipes de Djala. Ces jours-là, des hommes de l'ordre, pas des prisonniers, ne voyageaient pas dans une cage. Précédés par un porteur d'étendard, ils défilaient fièrement devant le maître de l'ordre.
Soudain, Richard vit quelqu'un qu'il ne s'attendait pas à trouver là.
« Kalan !»
Il avait crié, et sa femme tourna la tête, cherchant qui l'appelait ainsi.
Richard s'agrippa au barreau, les serrant assez fort pour les tordre si ça avait été possible. Bien qu'elle ne fût pas loin, Kalan aurait du mal à le repérer, car les environs grouillaient d'hommes venus assister à la parade des athlètes.
« Kalan ! Kalan !»
Cette fois, le miracle eut lieu. Kalan tourna la tête dans la bonne direction, et les regards des deux époux se croisèrent. les yeux gris du sourcier rivés dans les yeux verts de la mère inquisitrice. Enfin réunis. Mais Callan se détourna car Jagang l'observait avec un intérêt mêlé de suspicion. Puis le chariot s'éloigna, interdisant à Richard de voir sa femme. Le souffle coupé, il s'adossa à la paroi du fond et se laissa glisser sur le sol. Inquiet, le roc vint s'agenouiller près de lui.
« Ruben, t'as un problème? On dirait que tu viens de voir un fantôme. »«
Ma femme. Ma femme. »«
Oh, c'est ça. T'as repéré celle que tu voudrais si nous gagnions. Le général a promis, en cas de victoire, une belle fille pour chaque joueur. »
T'as déjà choisi la tienne?
C'était elle.
Bon sang, mais on dirait que t'es tombé amoureux.
Richard s'avisa qu'un sourire béat lui fondait le visage.
C'était elle, Léo. Elle est vivante. Tu aurais dû la voir, mon vieux. Elle n'a pas changé. Par les esprits du bien, c'était Callan.
Tu devrais respirer un peu moins vite, Ruben. Sinon, tu rendras l'âme avant que nous ayons l'occasion de casser du crâne impérial.
Nous allons jouer contre l'équipe de Jagang, le roc.
Pour ça, il faudra gagner beaucoup de rencontres, tu sais.
Richard n'entendit pas la remarque.
C'était elle, vivante. Tu m'entends, le roc?
Richard donna l'accolade à son ami, lui brisant presque les côtes.
Vivante!
Si tu le dis, Ruben.
Régulant sa respiration, Callan s'efforça d'apaiser son cœur affolé. Mais pourquoi était-elle bouleversée ainsi? L'homme prisonnier de la cage était un inconnu pour elle. Alors que le chariot passait devant elle, elle avait dû l'apercevoir durant moins d'une seconde. Pour une raison mystérieuse, cela avait suffi à la mettre dans tous ses états. La deuxième fois que l'inconnu avait appelé Callan, Jagang avait tressailli comme s'il s'était aperçu de quelque chose. La prisonnière avait aussitôt cessé de regarder le chariot. Pourquoi avait-elle eu ce réflexe? Elle n'en savait rien.
Non, c'était faux. Elle savait très bien pourquoi elle avait voulu protéger l'homme.
Il la connaissait. Et Jagang, s'il la prenait, risquait de le faire torturer ou même mettre à mort. Mais ce n'était pas tout. Si cet homme la connaissait, il devait être lié au passé qu'elle tenait absolument à oublier. Jusqu'à aujourd'hui. Depuis qu'elle avait croisé le regard de cet homme, tout avait changé. Adieu la morose résignation. Adieu le renoncement à la vie. Loin d'être enfoui à tout jamais, son passé devait revenir en pleine lumière parce qu'il paraissait avoir été merveilleux. Quelque chose dans le regard gris du prisonnier, une vitalité indomptable sans doute, avait redonné à Callan le sens de son importance dans le monde. Sa vie ne pouvait pas être jetée à l'eau comme si elle ne valait rien. Callan devait savoir qui elle était. Tant pis pour les conséquences et au diable le prix à payer. Elle voulait récupérer sa vie et pour cela il n'y avait qu'un chemin, la vérité. Les menaces de Jagang n'étaient pas vaines. Elle était bien placée pour le savoir. Mais le plus grave restait qu'elle l'incitait à abdiquer, oui, à renoncer à son identité, le seul bien qui fût vraiment à elle. Par ce biais, l'empereur la réduisait en esclavage, ni plus ni moins. Mais il ne pouvait pas la dominer ainsi sans qu'elle en soit complice, si peu que ce fût, en renonçant de son plein gré à combattre pour la vérité. Le temps de la dérobade était révolu. Callan méritait mieux que ce pathétique renoncement. Prisonnière, peut-être. Esclave, jamais. La servitude était un état d'esprit, pas une condition objective, et cet état d'esprit, elle venait de s'en libérer. Pas question d'abdiquer face à Jagang. Un jour, elle récupérerait sa vie, son passé et son identité. Aucune menace ni aucune torture ne pouvait priver un individu de ces biens-là. Callan sentit rouler sur sa joue une larme de joie. L'homme dont elle ne se souvenait pas lui avait donné le courage de se battre pour son passé. En un sens, on eût dit qu'elle respirait pour la première fois depuis qu'elle avait perdu la mémoire. Que n'aurait-elle pas donné pour remercier son anonyme sauveteur?